Donc quelques mots pour introduire Nicolas Chaigneau. Nicolas est professeur à l'Université Lyon 2. Il est donc historien de la pensée. Il est responsable en particulier du master Histoire des théories économiques et managériales. Et il est membre de l'équipe Triangle, qui est une UMR du CNRS, de l'ENS, de Lyon 2, qui regroupe des philosophes, des historiens et des économistes. Donc Nicolas, je te passe la parole tout de suite pour nous expliquer finalement qu'est-ce qu'un historien de la pensée a à dire sur le raisonnement économique.
Bien, je te remercie. Merci à tous d'être présents, bonjour. Donc comme ça a été bien dit, mon objectif aujourd'hui c'est d'apporter quelques éléments d'éclairage, ou du moins un regard sur le thème de l'histoire de la pensée et le raisonnement économique. Alors c'est un titre ambigu en fait, qui pourrait laisser entendre deux choses, c'est que je vais vous parler de la façon que j'ai de raisonner. Alors, bien sûr, je raisonne. Par ailleurs, je suis aussi économiste, hein, j'ai les diplômes qui vont avec. Mais mes modes de raisonnement dans ma pratique de chercheur au quotidien ont plus attrait en fait à l'histoire, mais à l'histoire des sciences en particulier. Alors, on a des méthodes. Peut-être que vous allez les découvrir pendant ma présentation. Hein, le mouvement se prouve en marchant. Donc, je vais vous montrer comment je travaille lorsque je réfléchis à des questions. Mais ce qui m'intéresse plus, en fait, c'est de vous montrer ce que l'histoire de la discipline aurait apporté comme éclairage sur les contours de l'économie tels qu'ils se dessinent aujourd'hui. Hein. Et notamment, ce que peut dire l'histoire de la pensée, le regard un peu historique, sur ce qu'ont été et ce que sont aujourd'hui les modes de raisonnement économique. Alors, je ne vous cache pas, parler de ça en une heure et demie, c'est une gageure, donc impossible à relever par définition, ne serait-ce que... En fait, la discipline, la théorie économique, depuis, disons, allez, on va faire simple et rapide, depuis le début du XIXe siècle, s'est constituée avant tout en réfléchissant à son propre statut. C'est-à-dire, les premiers économistes se sont posés la question de savoir quelle méthode ils allaient employer, quel était le statut de leurs résultats, bon, bref, quel était leur mode de raisonnement. Néanmoins, donc, naturellement, il est impossible de vous narrer ça en une heure et demie sans tomber dans la caricature. Néanmoins, il y a une manière, ce que je me propose de faire aujourd'hui, de rétrécir un peu la perspective, c'est de partir un peu des thèmes qui vont être développés, enfin qui ont été développés, et qui vont être développés dans les conférences à venir. C'est-à-dire qu'il y a un texte de présentation des conférences qui fait un état assez précis en fait, des nouvelles tendances de la discipline, certaines nouvelles tendances de la discipline, et ce que je me propose, c'est de partir de ces éléments. Donc ces éléments de contexte, en fait, qui apparaissent un peu dans le thème des conférences que vous aurez à venir, c'est le développement récent de deux disciplines, qui se traduit d'ailleurs par le fait que, pour l'une d'entre elles, l'économie comportementale, ça apparaît maintenant dans le cursus proposé aux étudiants, je crois en master à Lyon 2, ça doit exister. Du temps où je faisais mes études en économie, il n'y a pas si longtemps que ça, en réalité, ça n'existait pas. Hein, c'est vraiment une tendance nouvelle. Et la neuroéconomie, dont je présume Marie-Claire Villeval vous a parlé à la précédente conférence, pour ceux qui étaient présents. Bon. Alors très rapidement, pour vous décrire ces deux disciplines, ça peut aller assez vite, hein. La neuroéconomie, donc c'est une science qui est au croisement de l'économie et des neurosciences, et le but, c'est d'étudier un peu l'influence des facteurs émotionnels, notamment sur les comportements. Et sa démarche, au jour d'aujourd'hui, pour autant que je sache, consiste notamment, et c'est pour ça que j'ai mis très caractéristique en dessous, à faire appel à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on fait de l'imagerie cérébrale, on regarde les réactions des gens à certains stimuli, et c'est une dimension très importante. Bon. Dans le même temps, se développe parallèlement, et il n'y a pas de cloisonnement entre les deux d'ailleurs, l'économie comportementale, que je connais mieux, qui elle, en fait, a pour but d'étudier le comportement économique, enfin le comportement des individus dans des situations spécifiquement économiques. L'idée, qui est assez récente finalement, aussi surprenant que ça puisse paraître, je vais y revenir, c'est de tester un peu les hypothèses, des modèles dont disposent les économistes pour expliquer le choix individuel, notamment de tester ce qu'on appelle le modèle standard. J'y reviendrai. Bon. Et là aussi, il y a recours assez abondant à l'expérimentation, vraiment au sens précis du terme, c'est-à-dire des expériences en laboratoire, contrôlées, répétées. Et l'idée qui est affichée, c'est finalement de mettre au jour les fondements des comportements économiques et d'asseoir le discours sur ces fondements eh bien, sur une pratique qui est notamment celle de l'expérimentation. Bien. Alors, je dis deux mots d'emblée du modèle qu'on teste lorsqu'on fait ces expériences, puisque ça reviendra dans le cadre de mon intervention. C'est ce qu'on appelle le modèle standard, donc, qui, grosso modo, hein, est un modèle où on suppose qu'on a des individus parfaitement rationnels, omniscients, de parfaits calculateurs, et que ceux-ci cherchent à rendre la plus grande possible leur satisfaction, leur utilité, qui dépend des quantités de biens consommés. Et ils le font parfaitement au sens où ils ont cet objectif et ils tiennent parfaitement compte dans leurs calculs de l'environnement et des contraintes, notamment les prix qui sont des données pour eux et leurs revenus. Bon. Donc on a des parfaits calculateurs, hein, c'est un modèle dont je vous parlerai tout à l'heure. Et récemment, beaucoup de travaux ont été consacrés à la question de savoir si c'était robuste empiriquement. Alors naturellement, ça ne l'est pas tellement, hein, pour certaines situations. Et l'économie comportementale a beaucoup contribué à enrichir finalement ce modèle en montrant qu'en réalité, pas mal de comportements s'en écartent. Bien. Alors la question que je voudrais me poser ici, avec vous, c'est... Alors on va passer directement à la diapo, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. On ne va pas y arriver. C'est pourquoi si tardivement ? C'est inscrit devant vous. Si on prend le regard maintenant de l'historien, ce modèle standard, il date de 140 ans. Il aura 140 ans l'année prochaine, en 2011, puisqu'il a été élaboré par un Anglais, William Jevons, dans un ouvrage qui s'appelle « La théorie de l'économie politique ». Et on pourrait quasiment aujourd'hui faire un cours de comportement individuel de première année à l'université en recopiant cet ouvrage. C'est-à-dire que toutes les briques fondamentales qui nous permettent d'expliquer le comportement économique dans le cadre de ce modèle standard, maximisation d'une utilité sous contrainte, sont déjà présentes. Bon, 140 ans. Bon. Par ailleurs, à la même époque, la psychologie expérimentale, un petit peu avant en réalité, 10 ans à peu près avant, commence à émerger. C'est-à-dire que les psychologues, de leur côté, n'ont pas attendu la période récente pour faire des expériences sur les individus, et notamment dans la seconde moitié du 19e siècle, en Allemagne précisément, les premiers travaux de psychologie expérimentale apparaissent. Ce que je suggère ici, et c'est ce sur quoi je voudrais travailler pendant le cadre de cette conférence, c'est que les éléments étaient déjà là pour que les tendances actuelles de la discipline soient empruntées, c'est-à-dire s'interroger éventuellement sur la validité du modèle standard, au moyen notamment d'un certain nombre d'apports qui pourraient venir d'une psychologie expérimentale naissante. Alors, quel rapport avec le cycle de conférences et la question de comment raisonnent les économistes ? En réalité, l'hypothèse que je vais développer, c'est la suivante. C'est que ça s'est produit si tardivement, notamment cette volonté présente d'utiliser beaucoup l'expérimentation pour tester la théorie économique, car entre-temps, les économistes ont beaucoup réfléchi au statut de leur discipline et au sens que ça pourra avoir de faire de l'économie. C'est une question générale qu'on peut incarner, en fait, dans deux sous-questions. Première question que se sont posées les économistes, et je vous présenterai quelques éléments de réponse, et par, bien sûr, c'est de savoir quelle place l'économie occupe dans les différents, enfin, dans le spectre des différents domaines de connaissances. Pour le dire très, de manière caricaturale, par exemple, est-ce une science morale ? Est-ce une science exacte ? Est-ce que c'est une science qui doit s'approcher de l'exactitude des sciences mathématiques, etc. C'est une réflexion qui a pris corps dès le début. Dès la fin du XVIIIe, le début du XIXe siècle, être économiste, c'était aussi se poser la question du sens que ça avait de faire de la théorie économique au regard des autres disciplines. Et donc, en conséquence, la question qui se pose, c'est comment on doit raisonner. Dire au début du XIXe siècle, l'économie, doit se rapprocher, par exemple, des sciences expérimentales ou des sciences dures, ça implique un mode de raisonnement qui n'aurait, si tant est qu'on ait dit ça, rien à voir avec une affirmation qui pourrait suivre du fait de dire que l'économie est une science sociale. Bien. Derrière ces interrogations un peu générales, il y a en réalité deux questions précises qu'on va étudier, qui traversent toute l'histoire de la discipline de fin 18e à maintenant. Les tendances actuelles de la discipline ont répondu à ces questions. La première, c'est quel rapport l'économie doit-elle entretenir avec l'expérimentation ? Quelle place ça doit occuper ? Si tant est, d'ailleurs, que ça doit occuper une place. On verra que la réponse n'est pas si évidente. Deuxième question, qu'on s'est posée pendant les deux derniers siècles, y a-t-il une place donc, en économie pour des préceptes pratiques ? Je vais y revenir. Qui nous indiquerait en fait comment nous devons nous conduire et comment, par exemple, l'État doit se conduire lorsqu'il fait, par exemple, de la politique économique. Et est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Y a-t-il une place en économie pour des préceptes moraux, pour le dire vite? C'est-à-dire, l'économie est-elle une science qui, par ses modes de raisonnement et par ses résultats, peut nous permettre de nous dicter la juste conduite, d'être vertueux? Par exemple, être charitable, se montrer altruiste dans les échanges marchands, etc. etc. Bien. Alors, c'est les deux questions qu'on va étudier ensemble, sachant qu'au fur et à mesure de la conférence, on verra qu'elles apparaissent relativement liées. Pour traiter ça, il y a une distinction dont je vais partir, qui est assez utile, qui a cours au XIXe siècle, et je vais d'ailleurs utiliser les définitions du XIXe siècle. C'est une distinction entre la science, l'art et la morale. Des termes un petit peu anciens, hein, dans leur tournure, mais qui néanmoins ont du sens. Bon. Donc là, je me suis livré à un exercice que logiquement, tout spécialiste de la méthodologie en général, de la méthodologie économique, ne devrait surtout pas faire. C'est définir des choses aussi complexes que la science, l'art et la morale en une phrase. Mais c'est un guide pour la réflexion. Au XIXe siècle, la science, lorsque les économistes en parlent, on verra des exemples, c'est un corps systématisé, qui a un petit peu d'ampleur, de propositions qui sont retenues au nom d'un critère de vérité. Donc le critère de la science, c'est le vrai. Bien. C'est moins vrai, d'ailleurs, c'est un mauvais jeu de mots aujourd'hui, mais c'est comme ça que c'est perçu. Plus loin se situe l'art, qui en fait fait référence aux préceptes pratiques dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un ensemble de règles pratiques pour la vie quotidienne qui est destiné à servir à la solution d'un problème concret. Une connaissance appliquée. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'économie, si on en cherche des racines très lointaines, notamment dans la Grèce antique, elle était pensée comme ça. Hein, c'était un art de gestion de la maisonnée. Donc on avait des recommandations pratiques sur la façon d'être un bon gestionnaire. Bien. Troisième champ disciplinaire, très large, donc la morale, qui lui aussi est un art, mais cette fois-ci de la conduite humaine, où là on nous indique, à chacun d'entre nous, chaque jour, comment on doit utiliser nos facultés, nos sensations, afin de promouvoir le bien. Reste après à définir ce qu'est le bien. Il y a plein de définitions. Au XIXe siècle, on dira volontiers que c'est maximiser le bonheur collectif, rendre la société la plus heureuse possible. Et une théorie qui s'appelle l'utilitarisme dira ça. Mais il y a plein d'autres théories morales. Bien. Alors, ce que je me propose de faire, c'est de voir comment l'articulation de ces trois domaines est pensée à partir du début du XIXe siècle, enfin la fin du XVIIIe siècle. Et une fois qu'on aura des éléments de réponse à cette question, comment on pense l'articulation de ces trois domaines, on aura peut-être une vision un peu claire du statut que les économistes accordent à leur science et à leur raisonnement. Est-ce de la science? Est-ce de la science, de l'art et de la morale? Est-ce que de la morale? Etc. etc. Bien. Donc commençons à entrer dans le détail des auteurs qui pourraient nous servir d'appui pour réfléchir à cette question. Bien. Alors, le premier, c'est un peu c'est un petit peu le passage obligé dès lors qu'on fait un peu d'histoire de la pensée économique, mais là ça a du sens. C'est de parler, dans un premier temps, d'Adam Smith, pour qui, on va le voir, la science est au service de l'art. Alors Adam Smith, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations », considéré comme le père de l'économie politique, peut-être que je dois en dire deux mots, éventuellement, il est considéré comme le premier économiste. La plupart des manuels d'histoire de la pensée économique, on ouvre, généralement, c'est celui qui se voit le premier réserver une place conséquente dans les développements. Alors, que nous a apporté Smith? Oui, tout étudiant qui se respecte en économie et tout diplômé en économie a entendu parler de Smith. J'ose espérer, je pense que c'est sûr. C'est une référence incontournable pour un économiste encore aujourd'hui. Bon. Alors, que nous a apporté Smith? Grossièrement, Smith, c'est le fondateur d'une école qu'on appelle l'école classique, qui durera jusqu'à la fin du XIXe siècle. On lui donnera un coup de grâce tout à l'heure, vous verrez, qui étudie la problématique suivante. Quelles sont les conditions de l'accumulation des richesses dans une société? Bon, d'où le titre, hein, « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». Et ensuite, dans un deuxième temps, Smith s'intéresse, et ses descendants aussi, aux modalités de la répartition de ces richesses dans la société. À cette occasion, Smith nous explique que la société est compartimentée en trois classes, travailleurs, capitalistes, propriétaires fonciers, Parce qu'en fait, on étudie une société où il y a propriété des moyens de production, donc il y a des capitalistes, et propriété privée de la terre, il y a des propriétaires fonciers. Et donc, la théorie de Smith, c'est la première théorie d'une économie capitaliste, au sens littéral du terme. C'est-à-dire, on regarde comment une économie capitaliste, structurée en classe, produit de la richesse, et ensuite la répartit entre ses agents. Bon. Le grand résultat de Smith, en tout cas pour certains, c'est d'avoir mis au jour une condition tout à fait particulière. Et c'est la raison pour laquelle il a laissé son empreinte dans l'histoire. C'est que Smith démontre au début de son ouvrage, c'est ce qui est lu la plupart du temps, que paradoxalement, c'est la poursuite de l'intérêt individuel des agents qui contribue à cet enrichissement. Je ne vais pas être très long, mais ça s'explique très simplement. Chacun d'entre nous possédons des biens, par exemple des facteurs de production, certains sont capitalistes, nous cherchons notre intérêt, et nous déplaçons notre capital là où, éventuellement, l'offre est inférieure à la demande parce que les prix sont élevés. Et en faisant ça, on contribue à faire augmenter l'offre et on rééquilibre en permanence les marchés. Bon, je suis allé peut-être un peu vite, mais l'idée, c'est de dire les intérêts individuels des agents les poussent à faire des actes qui, finalement, contribuent partout à assurer la production sur tous les marchés. Et ce faisant, ils produisent de la richesse. Bon. Alors, cette démonstration explique qu'on ait dit que Smith fait l'apologie d'un système d'économie de marché. Pardon, puisque c'est en laissant la liberté des échanges que les individus peuvent donc suivre cet intérêt et contribuer à la richesse. Et généralement, on s'arrête là. C'est les deux premiers livres de La richesse des nations. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir pourquoi Smith fait ça. Bon. Et en réalité, lorsqu'on poursuit la lecture de l'ouvrage, on s'aperçoit d'une chose assez importante, en tout cas, c'est que pour lui, l'économie politique n'a qu'une fin en soi, c'est d'être le préambule de la politique économique. Alors, il y a une citation qui est un petit peu longue, c'est très clair, il suffit de lire à la limite les trois premières lignes. L'économie politique, considérée comme une branche des connaissances du législateur et de l'homme d'État. C'est une science de l'art de gouverner. L'économie politique a comme finalité ultime l'art de gouverner. Et donc l'art au sens où je l'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire de trouver, d'identifier des préceptes pratiques qui nous guident dans notre vie au quotidien. D'ailleurs, c'est très explicite, la dernière phrase, elle propose d'enrichir à la fois le peuple et le souverain. Il y a vraiment une finalité, qu'on peut appeler d'ailleurs une finalité normative, ce qui veut dire qu'elle indique ce qui doit être. Smith dit clairement, ce qu'on doit faire dans une société, c'est proposer des moyens d'enrichir à la fois le peuple et le souverain. On pourrait tout aussi bien souhaiter un autre but pour la société. C'est à l'évidence un parti pris qu'on peut accepter, mais c'est un parti pris. Et donc ça explique qu'on puisse dire que la science, l'économie politique en tant que corps constitué et systématisé de vérité, eh bien, est au service de l'art, puisqu'elle doit permettre d'enrichir, notamment, pas que, hein, d'enrichir le souverain. Bien. Alors, très rapidement, je n'en dis pas beaucoup plus sur Smith, ce qui est assez étonnant, c'est que Smith est à la fois le fondateur d'une école, on va le voir, il a influencé de manière primordiale, fondamentale, beaucoup d'économistes jusqu'à la fin du XIXe siècle, mais c'est descendant sur cet aspect-là, c'est-à-dire cette idée que l'art soit finalement la finalité ultime, cet aspect-là va être très rapidement rejeté. Notamment par un auteur qui est habituellement présenté comme le digne héritier de Smith. Parce que là aussi, dans les manuels d'histoire de la pensée, on dit David Ricardo est un classique comme Smith. Bon. Donc David Ricardo écrit, lui, en 1817, c'est pas très tardivement après Smith, un ouvrage qui s'appelle « Des principes de l'économie politique et de l'impôt ». Et il signale un événement assez important dans l'histoire de la discipline au XIXe siècle, qui a des implications encore aujourd'hui. C'est une rupture assumée, affirmée, entre la science, d'une part, et l'art, rupture qui va être reprise par beaucoup d'auteurs jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors que dit Ricardo ? Ce n'est pas une citation, mais il aurait pu l'écrire, probablement. Ricardo nous dit que la science économique doit rompre avec l'idée qu'elle devrait avoir un but pratique défini. Bon, c'est... Imaginons que ce soit une citation de Ricardo, il l'a dit, mais il l'a dit autrement, c'est une critique à peine voilée de Smith. Hein, on récuse l'articulation entre la théorie et ses applications pratiques. Bien. Bon, on pourrait s'arrêter là et prendre ça pour argent comptant. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment de savoir pourquoi Ricardo dit ça. Pour s'en apercevoir, le mieux, c'est de faire référence à un de ses descendants aussi, intellectuel, quelqu'un qui écrit quelques années après, un des très grands économistes du XIXe siècle, un classique aussi, qui s'appelle Stuart Mill. Que nous dit John Stuart Mill ? Mill dit, reprend la distinction science et art. Celle que, en fait, en réalité, les définitions que je vous ai données tout à l'heure sur la science, l'art et la morale sont des définitions milliennes, quasiment, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour John Stuart Mill. Mill dit, bon, il y a la science, recueil de vérité. Le critère, c'est le vrai. Il y a l'art qui est un recueil de préceptes pratiques. Bon. Et le langage de la science, c'est très simple. C'est ceci est, ceci n'est pas. Par exemple, la loi de la gravitation universelle, c'est une loi physique incontournable. Les corps tombent, c'est un fait. On voit les corps chuter et les planètes suivent la loi de l'attraction universelle. Elles le font et ne le font pas, ça ne se discute pas. Ceci est, ceci n'est pas. Mill ajoute à ça, le langage de l'art, c'est « faites ceci, évitez cela ». Et ceci doit être ou ceci ne doit pas être. Ce qui est un mode impératif, alors que le mode de la science est un mode descriptif. Et l'argument de Mill, qui est un argument ancien en réalité, c'est de dire qu'il est logiquement impossible de déduire de ce qui est ce qui doit être. Ce qu'on appelle, en méthodologie des sciences, la guillotine de Hume. D'ailleurs, c'est un petit peu anachronique, parce que Hume a probablement écrit ça au moment où la guillotine n'existait pas, je ne sais pas, à vérifier. Mais Hume a écrit ça donc, au XVIIIe siècle, c'est une reprise de la position de Hume, c'est que, simplement, des énoncés descriptifs, donc scientifiques, s'ils sont vrais, ne peuvent permettre de déduire que les énoncés descriptifs et factuels. Et des énoncés normatifs, ceci doit être, ne peuvent engendrer que des énoncés normatifs. Alors, pour vous donner un exemple, c'est une distinction fondamentale pour les économistes, aujourd'hui encore, je pense. Pour donner un exemple, ça a été beaucoup développé au XIXe siècle, notamment pour parler de la morale. Par exemple, on dira que la morale tient toute seule. C'est une belle formule qui est de dire que le fondement de la morale ne peut être que la morale. Prenons un exemple. Imaginons que je vous propose une philosophie morale qui vous dise « nous devons nous montrer charitables ». C'est un mode impératif. Je dis ce que tu dois être. Et imaginons que nous ayons par ailleurs une théorie scientifique qui, au moyen d'expériences en laboratoire, ait démontré que nous sommes naturellement charitables. Donc on a une théorie scientifique qui dit ce qui est, nous sommes naturellement charitables, indépendamment de l'exercice de notre volonté individuelle. Nous n'y pouvons rien. Quel serait le but d'une morale qui nous prescrirait de faire quelque chose qui arrive quoi qu'il advienne? Ça n'a aucun sens. Je trouve, je vous le dis à titre personnel, ce raisonnement assez imparable, il est discutable bien sûr, mais assez fort, parce qu'il montre bien que nous ne pouvons pas partir de la science pour fonder la morale. Et de la même façon, les auteurs comme Ricardo ou comme Mill, qu'on appelle d'ailleurs les Ricardiens, sont les descendants de Ricardo est un Ricardien à l'évidence, mais Mill est un Ricardien, croient fondamentalement à ça. On ne peut pas passer de ce qui est à ce qui doit être. Parce que d'ailleurs, ça vide de sa substance le mode impératif. Je pense que c'est assez, si ce n'est clair, en tout cas, assez évident, enfin, du coup, leur position là-dessus. Bon. Alors, évidemment, ça a un certain nombre de conséquences un peu désastreuses pour Smith. À la limite, Smith, qui était déjà mort, s'en est remis. Mais sur les tendances de la discipline, ensuite. Et j'essaie de tenir mon fil. Je reviens aussi souvent que possible à la question du statut de la science économique et de ses modes de raisonnement. Ça a des conséquences, que j'indique ici à travers ce que j'appelle les effets de la rupture, ça a des conséquences assez importantes. D'abord, on sait après, Ricardo, ce que doit être le but de la science économique. Découvrir des lois qui décrivent les phénomènes économiques. C'est une science. Bien. Je ne dirais pas jusqu'à dire une science dure, mais c'est une science, avec ses critères notamment de vérification. Parce qu'à l'époque, on vérifie. Ces lois n'ont donc aucun caractère normatif, au sens qu'elles n'indiquent pas ce qui doit être, soit dans l'art, soit dans la morale. Et donc, par conséquent, leur caractère de loi scientifique n'implique aucune détermination normative. Et par provocation, j'ai rajouté une petite parenthèse pour indiquer que ça n'implique pas l'apologie du laisser-faire. Alors, je pense que ce sera un des thèmes, en creux en tout cas, d'une conférence à venir. L'économie est encore une science de l'apologie du marché. Il y a des réponses multiples. Ce qui est clair, c'est qu'au XIXe siècle, pour un classique, et quelqu'un qui se retrouve dans la théorie de Ricardo, il n'y a aucun lien logique entre, par exemple, une théorie économique, une science, qui démontrerait des effets bénéfiques au libre-échange, et le fait de recommander l'instauration du libre-échange. Alors, c'est une position qui sonne curieusement à nos oreilles aujourd'hui, puisque aujourd'hui, plus qu'avant, les économistes sont invités dans le débat public pour donner des avis. À l'époque, au XIXe siècle, Mill, par exemple, indiquait qu'il était hors de question qu'un économiste, en tant qu'économiste, puisse donner un conseil quelconque sur l'art de gouverner. Alors l'un d'entre eux, qui s'appelait Nassau Senior, un grand économiste un peu oublié maintenant, mais anglais, descendant de Ricardo, ira même jusqu'à écrire que dès lors qu'on se réclame du titre d'économiste, on doit s'engager à ne jamais donner son avis sur quoi que ce soit. Hein, quasiment par écrit. Hein, je pense que s'il avait pu l'inscrire dans la loi, il l'aurait fait. Bon. Et quand on regarde dans la réalité des faits, si vraiment ils ont eu des positions conformes à cette posture intellectuelle, oui, en fait. Il y a eu beaucoup de débats en Angleterre, notamment au XIXe siècle, sur le libre-échange, sur l'assistance apportée aux pauvres pour faire face à la paupérisation croissante, sur les régimes du commerce. Les économistes sont restés étonnamment silencieux pendant toute cette période. Ricardo, il y a un indice très simple, Ricardo était membre du Parlement anglais, et donc un des plus grands théoriciens de l'économie politique au XIXe siècle. Ses interventions n'ont jamais démontré qu'il entendait mettre sa science au service des recommandations dont il ferait part au Parlement. Bien. Donc là, il y a une rupture nette, me semble-t-il, entre art d'un côté, science de l'autre, et naturellement, ça confère un statut tout à fait particulier au raisonnement économique à l'époque. Bien. Voilà un peu pour les grandes tendances du XIXe siècle. Alors, il y aura sans doute une série de questions, enfin, du moins j'ose espérer, mais je voulais insister là-dessus parce que j'ai eu le sentiment que c'était allait être un petit peu à contre-courant un certain nombre d'idées qui laisseraient entendre que les économistes de l'époque étaient par nature libre-échangistes. Plus compliqué que ça. Bien. Le paysage change et on va commencer à se rapprocher progressivement de l'économie contemporaine. Et là, il me faut prendre un petit instant pour décrire le changement, non pas d'un point de vue du positionnement de l'économie dans le champ des sciences, mais d'un point de vue plus resserré, c'est quelles sont les questions étudiées à l'époque. Parce que les questions qui sont étudiées à partir de la fin du XIXe siècle sont très proches, on voit bien en creux ici le modèle standard, sont très proches de questions qui sont encore étudiées aujourd'hui. À partir de 1871, il y a une date parce qu'il y a un ouvrage, c'est pratique, c'est l'ouvrage en fait que j'ai cité tout à l'heure de Jevons, hein, bon, 1871, il y a un déplacement du centre de gravité des préoccupations des économistes. Je l'ai dit, Smith, Ricardo, ses descendants, jusqu'à la fin du XIXe siècle, se préoccupe de la production de richesses, d'un point de vue macroéconomique, hein, dans une société de classe. À partir de 1870, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre naturellement, il faudrait le cycle de conférences entier, la problématique devient plus restreinte, ce qui n'est pas péjoratif, devient plus restreinte, et elle se centre sur la question, formulée en termes contemporains, de l'allocation des ressources rares par le marché. Donc, on se centre exclusivement sur la question de comment fonctionne un marché. Bien. Smith en parlait, mais n'en parlait comme d'un élément qui contribuait à la réflexion sur sa problématique, la production de richesses. Et grande nouveauté d'un point de vue théorique, l'hypothèse qui est faite, c'est que cette allocation est le résultat de choix d'individus qui sont rationnels, d'une part, c'est inscrit ici, et qui font ce que je vous ai dit qu'ils faisaient dans le cadre du modèle standard, hein, ils maximisent leur utilité, nous cherchons tous notre bonheur en consommant des biens. Et comme la vie n'est pas parfaite, nous le faisons dans un univers de contraintes qui est constitué à la fois des prix et des revenus. Bon. Et ce produit, d'un point de vue théorique, quelque chose d'assez nouveau, on part de l'étude des comportements individuels pour étudier des phénomènes sociaux ou collectifs qui se produisent à l'échelle des marchés. Par exemple, c'est de l'étude du comportement individuel qu'on déduit les comportements de demande de biens et d'offre de biens. Je vais demander des biens en fonction du résultat que me donne mon calcul de maximisation. On fait la somme des demandes de chacun des individus, on a une demande, on peut faire pareil pour l'offre, et on a le fonctionnement du marché. Bon. J'insiste là-dessus parce qu'il y a continuité théorique, à partir de cette date-là, entre le modèle qui est adopté à la fin du XIXe siècle et ce qu'on adopte maintenant. Ça, ce sont les hypothèses que je projetterais si je faisais un cours de macroéconomie de première année, hein, et même de deuxième et de troisième et de quatrième année, probablement. Bien. Alors, d'un point de vue, maintenant, du mode de raisonnement, qu'est-ce que ça implique ? Beaucoup de choses, que je vais essayer de vous résumer le plus clairement et rapidement possible. Et pour le résumer, le mieux, c'est de s'en référer à l'auteur sans doute le plus pénétrant hein, dans son discours à l'époque, lorsque se passe l'émergence de l'économie néoclassique. En plus, il est français, donc ça, autant lui rendre hommage, c'est Walras. Donc Léon Walras, j'ai pas mis le prénom, pardon, qui est finalement à l'économie néoclassique ce que Smith est à l'économie classique. C'est le père fondateur d'une vision de la théorie économique, en tout cas d'un certain nombre d'outils, qui sont encore très largement utilisés aujourd'hui. Je dis souvent qu'il a quasiment écrit une partie de la grammaire des économistes, donc en 1874, et notamment il est fondateur de ce qu'on appelle le modèle d'équilibre général concurrentiel. Qu'est-ce que c'est ? Rapidement, c'est un modèle qui, c'est pas rien comme ambition, hein, celle de Walras. L'idée, c'est d'expliquer comment, dans un ensemble de marchés interdépendants, on arrive à équilibrer toutes les offres et les demandes. Comment se généralise l'équilibre ? Bon. C'est très compliqué, bien sûr, parce que dès lors qu'un marché se déséquilibre, si les marchés sont interdépendants, se crée un déséquilibre dans l'autre. Bon. Donc c'est un jeu extrêmement compliqué. Et les conditions économiques qui permettent la réalisation simultanée de l'équilibre sur tous les marchés, bon, mettre au jour ces conditions, c'est assez compliqué. Alors Walras y parvient, bon, sans trop rentrer dans le détail, puisque en réalité ça serait probablement un petit peu long. Walras y parvient, mais disons, il arrive à expliquer comment se détermine cette position d'équilibre général et à nous dire qu'elle est caractérisée par deux éléments. D'abord, on a un système de prix, un ensemble de prix pour tous les biens, tel que l'offre est égale à la demande. Bon. Ça, c'est obtenu sur la base des comportements individuels dont je vous parlais. Et en outre, autre propriété importante, on montre qu'à cet état-là, c'est-à-dire des prix pour lesquels l'offre est égale à la demande sur tous les marchés, les individus dont je vous parlais précédemment, ici, ils obtiennent effectivement le maximum de leur utilité. Walras nous livre un modèle qui est très fort. C'est-à-dire qu'il nous montre, quelles sont les conditions, je ne les développe pas, mais il nous montre toutes les conditions qui permettent de penser qu'il est possible que l'économie soit dans un état où tous les marchés sont équilibrés et tout le monde trouve le maximum de satisfaction. Voilà. Et c'est encore aujourd'hui des résultats qui sont très largement repris pour étudier le fonctionnement des économies. Bien. Quelle méthode est utilisée pour faire cette démonstration ? Eh bien, Walras va nous dire que l'analyse du marché relève de la science pure. Alors, c'est une magnifique démonstration que fait Walras, sur laquelle je vais m'attarder, parce que mon point de vue est que ce que va nous dire Walras, à propos de l'économie comme science pure, va déterminer toute la conception de la théorie économique au XXe siècle et toute la conception de ce que sont les modes de raisonnement des économistes au XXe siècle. Donc permettez-moi de m'y attarder un peu, même si ça doit m'appliquer, enfin même impliquer que je ne parle pas de tout à la fin. Walras nous dit la chose suivante. Les sciences, ça étudie des faits. Donc, partons d'une classification des faits. Quels sont les faits, les phénomènes à étudier, et déduisons-en une classification des sciences. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, essayons d'identifier quelle place y prendra la théorie économique. Et on saura ensuite si la théorie économique est une science pure, une science appliquée ou une science morale. Vous voyez, on retrouve toujours ce triptyque art-science-morale, qu'on le retrouve chez tous les auteurs qui se posent la question de savoir qu'est-ce que la science économique et quels sont ses modes de raisonnement. Bien. Les faits, ils sont de deux ordres. Il y a les faits naturels, qui sont les faits qui résultent uniquement du jeu des forces de la nature. Le soleil se lève, les corps chutent, il pleut, quoi qu'on pourrait penser à l'influence des hommes sur la climatologie, mauvais exemple, mais il se produit des faits naturels indépendamment de l'exercice de notre volonté individuelle. Le lever du soleil est quelque chose qui m'échappe chaque matin, hein, ma volonté individuelle n'y a rien à voir. Bien. Parallèlement, il y a des faits humanitaires qui, eux, résultent de l'exercice de la volonté des hommes. Bien. Eux-mêmes, ces faits humanitaires, se divisent en deux sous-catégories, puisque l'homme, lorsqu'il exerce sa volonté, agit sur les choses, la matière physique, et il entre en relation avec les autres hommes. En clair, Il y a des faits humanitaires qui concernent les rapports des hommes aux choses. La production, par exemple. Nous produisons des biens, nous interagissons avec l'univers physique pour produire des biens. Donc, un type de fait humanitaire, relation des hommes aux choses. Deuxième type de fait humanitaire, les relations des hommes entre eux. Le mariage, qui résulte logiquement de l'exercice de notre volonté individuelle et qui met en relation des êtres humains entre eux. Bien. Valras va nous dire, à chacun de ces types de faits, en réalité, deux apparaissent sur mon transparent, mais vous avez bien compris qu'il y en a trois, à chacun de ces types de faits correspond une science. La science pure naturelle étudie les faits naturels. C'est la science physique, par exemple. Et son critère, c'est le vrai. Bien. La science appliquée, elle, étudie les faits humanitaires qui mettent en relation les hommes avec les choses. Donc, premier type de fait humanitaire. Et son critère, c'est l'utile. Un ingénieur, par exemple, qui construit un pont, c'est l'exercice de sa volonté individuelle, il interagit avec la matière physique, et le critère d'utilité d'un pont, je pense qu'on peut dire sans trop risque de se tromper, que c'est son utilité. Parfois sa beauté, mais c'est plus rare. Bien. Et enfin, la science morale, elle étudie les faits humanitaires qui mettent en relation les hommes entre eux. Bon. Et son critère, c'est le juste. Les relations humaines sont-elles justes? Chacun y trouve-t-il de quoi promouvoir le bien et une idée de sa propre morale, la science morale. Alors la question qu'on a envie de, à laquelle on a envie d'avoir une réponse, en tout cas moi, c'est de savoir naturellement de quel type de fait relève l'économie. Et une fois qu'on aura trouvé de quel type de fait relève l'économie, on saura de quelle méthode elle doit se prévaloir. Et c'est le cheminement que je vous propose maintenant. Alors ça devait aussi apparaître progressivement, mais ça apparaît d'un coup, c'est pas grave. Pas tout de suite, il y a un suspense. Valras nous dit, pour placer l'économie, partons de ce que c'est un objet fondamental, c'est la rareté. C'est-à-dire des choses en quantité limitée, c'est jamais que la définition de la rareté, et des choses utiles. Oui, parce que des choses en quantité limitée qui ne sont d'aucun usage ne sont pas fondamentalement rares. Elles sont juste en quantité limitée, mais elles ne nous servent à rien. Donc la rareté au sens humain et économique du terme, c'est utile en quantité limitée. Or, la rareté suscite l'échange. C'est parce que les choses sont rares que nous sommes tous contraints à échanger, hein, dira Valras. Et donc, très logiquement, ça nécessite d'élaborer une théorie de l'échange et des prix. Donc, on a un but pour la théorie économique, à partir d'un fait fondamental, la rareté, qui est d'élaborer une théorie de l'échange et des prix. Si j'insiste là-dessus, c'est que c'est précisément la vocation de la théorie de l'équilibre général dont je vous ai parlé tout à l'heure. Expliquer le fonctionnement des marchés à partir de comportements individuels, d'échangistes, qui cherchent à maximiser leur utilité. Eh bien, pour savoir quel type de science est l'économie, il ne nous reste plus qu'à savoir quel type de fait est le prix. Le fait central de la théorie de l'échange, c'est le prix. Dans une théorie de l'échange, ce qui relie les individus, c'est le prix. Donc, une fois qu'on saura de quel type de fait relève le prix, on saura de quel type de science relève la théorie de l'échange. Bon. Quand j'ai découvert ça, je vous fais une confidence, mais elle est enregistrée, mais ce n'est pas grave. Quand j'ai découvert ça, avant de tourner la page de l'ouvrage de Valras, je m'attendais, je ne sais pas ce à quoi vous attendiez, qu'ils me disent « le prix est quelque chose qui résulte des relations des hommes entre eux. Nous négocions les prix, nous discutons échange, nous faisons du troc. » Et donc, la théorie de l'échange serait une science morale. Et non. Quel suspense. Pourquoi ? Valras nous dit deux choses. Le prix est un fait naturel. Pourquoi ? Parce qu'il s'impose à nous indépendamment de notre volonté individuelle. Sous réserve que nous fassions l'hypothèse que nous sommes en situation de concurrence élargie. Individuellement, aucun d'entre nous, je vous convoque dans la théorie valracienne, je vous prie de bien vouloir m'en pardonner, indépendamment de notre volonté individuelle, le prix se fixe à un certain niveau. Alors bien sûr, l'agrégation de nos comportements individuels, la somme de nos actions, détermine le niveau du prix. Nous demandons tous ardemment un bien, le prix va augmenter, naturellement. Mais individuellement, si je suis en concurrence avec plein de consommateurs, je n'ai aucun pouvoir sur le prix. Et donc, au même titre que je n'ai aucun pouvoir sur la loi de la gravitation, je n'ai aucun pouvoir sur la valeur d'échange comme fait naturel. Le prix s'impose à moi comme une donnée. En outre, c'est un fait mathématique. Oui, puisque c'est une grandeur arithmétique sur laquelle on peut faire toutes les opérations. On peut même faire des rapports de prix. D'ailleurs, en l'espèce, c'est ce qu'on fait quand on calcule les équilibres généraux. On fait des rapports de prix les uns sur les autres. ça nous donne des valeurs, des prix relatifs, et donc on peut faire de l'arithmétique. Bon. Alors, une fois, j'ai mis Walras 1874 pour expliciter ce fait, grandeur appréciable, sur laquelle on peut faire toutes les opérations de l'arithmétique. Fatalement, il s'ensuit que la théorie de l'échange est une science pure naturelle, puisque la science pure naturelle étudie les faits naturels. Or, elle étudie un fait naturel, le prix, donc la théorie de l'échange est une science pure naturelle. Bon. Et plus, elle constitue une branche des mathématiques, nous dira Walras, puisqu'elle étudie un fait mathématique. Et à ce titre, elle doit utiliser la méthode rationnelle, que je vais développer naturellement maintenant. Donc vous voyez, on a une description assez précise, mais ce n'est pas de mon fait, c'est celui de Walras, de ce qu'est la science économique dans le spectre des sciences. C'est une branche des mathématiques. Ce qui peut paraître assez aussi provocateur de le dire comme ça, mais c'est ce que disait Walras. Ce n'a pas été repris dans les premières années, mais ça s'est assez imposé au XXe siècle. J'y viendrai peut-être lorsqu'on aura l'occasion de discuter. Qu'est-ce que la méthode rationnelle ? Bien, pour la comprendre, et là, c'est aussi un clin d'œil, c'était mon but, à l'orientation actuelle de la discipline qui utilise une forme de méthode expérimentale, elle s'oppose radicalement pour Walras à la méthode expérimentale. Alors, j'ai défini les deux de manière volontairement naïve, pour grossir le trait et susciter éventuellement des réactions, d'autant que ce genre de définition peut se discuter si on a un débat sur la méthodologie des sciences, mais restons-en là. La méthode expérimentale décrit des phénomènes uniquement tirés du regard porté sur la réalité, donc à partir de l'expérience, et on induit des lois générales à partir de faits particuliers. Alors, ça peut être plus raffiné que ça, mais défini de manière la plus simple possible, c'est une induction à partir de faits particuliers dont on cherche à tirer des lois générales. À l'inverse, dirais-je, parce que c'est presque l'inverse, la méthode rationnelle, elle, provient des mathématiques, méthode purement logique, qui procède en trois étapes. Première étape, qui d'ailleurs occasionne, parce qu'elle est encore appliquée aujourd'hui en économie, beaucoup de discussions avec notamment nos étudiants, qui nous disent que ce n'est pas réaliste. On en parlera. La définition de type idiot, par abstraction. C'est-à-dire qu'on va par exemple supposer que les individus maximisent leur utilité. Mais ce n'est jamais pensé dans la méthode rationnelle comme la description d'une réalité empirique. Simplement, Walras dira, enfin aurait pu dire, l'expérience de tous les jours nous indique que les gens recherchent une satisfaction. Et l'essence du phénomène, le concept pur, en fait, qu'on peut abstraire de ça, c'est une hypothèse de maximisation de l'utilité. Mais personne ne penserait sérieusement qu'ils le font réellement. Mais on va supposer que c'est le cas, puisque le type idéal du comportement, c'est ça. Autre exemple, le vide pour les physiciens. Quand on fait un petit peu de physique au lycée, la première chose qu'on fait, on suppose que les corps se déplacent dans le vide. C'est un type idéal. La réalité est imparfaite, elle est faite de frottements, mais l'essence même des phénomènes qu'on va étudier, la chute des corps, eh bien, elle peut être étudiée en supposant la présence de vide. Autre exemple, la concurrence parfaite qu'on suppose en économie. Très formellement, ça veut dire qu'il y a plein d'agents. En réalité, mathématiquement, ça veut dire plus que ça. Ça veut dire qu'il y a infinité d'agents, quand on parle de la concurrence parfaite. Or, l'infinité d'agents ne se conçoit pas empiriquement. Donc c'est un type idéal. Bon. Ensuite, eh bien, on fait un raisonnement purement logique, une théorie pure, sur la base de ces types idéaux. C'est de la science qu'on appelle déductive, des concepts purs, hypothèses, à partir desquelles on fait un raisonnement logique. Et ensuite, le cas échéant, nous dit Walras, on applique ces conclusions à une réalité imparfaite. Il ne s'agit pas du tout de tester la validité empirique des résultats. Puisque, encore une fois, je le dis dans le transparent qui suit, cette méthode n'est pas sujette à la vérification expérimentale. C'est hors de propos pour Walras et puis pour certains de ses successeurs. En revanche, on peut appliquer les conclusions pour éventuellement modifier la réalité. Par exemple, si la théorie montre que la concurrence parfaite, qui n'existe pas, qui est un type idéal, a des vertus, on peut, le cas échéant, ce que ne fait pas Walras, mais faire de l'art, si on le souhaite, et proposer des préceptes pratiques. Bien. Donc, on a ici quelque chose d'assez différent des ricardiens, mais néanmoins, qui nous met très clairement sur le chemin de l'économie pure. Je résume ça dans la partie transparent suivant. Pour le coup, ce que nous livre Walras, c'est une théorie de l'échange qui est un modèle abstrait, des échanges concurrentiels idéaux, hein, au sens, qu'est-ce qui se passerait si les concepts étaient purs, si nous étions dans le vide, si la concurrence était parfaite, si nous maximisions l'utilité. Bon. Elle échappe totalement à l'idée d'une confirmation expérimentale, et ça touche le modèle de choix. Pour Walras et certains de ses successeurs, il est hors de propos, enfin c'est hors de propos, de tester la validité empirique du modèle de choix rationnel. Se poser la question, est-ce qu'il est réaliste, est-ce que les agents, plutôt, pardon, se comportent réellement en maximisant leur utilité, cette question est hors de propos, compte tenu des critères qu'on s'est donnés pour la science. Question hors de propos. Bon. Alors, c'est devenu une question qui est de propos aujourd'hui. J'espère avoir les quelques minutes qu'il faut pour vous en parler. Bon. Et ces conclusions, donc, peuvent s'appliquer néanmoins à la résolution de problèmes concrets. Bien. Alors, ça, c'est la position de Walras aux alentours de 1874, 1877 aussi. Si j'ai été aussi long sur Walras, c'est que une bonne partie de la méthodologie économique, pas toute, hein, mais celle qui concerne l'explicitation des choix individuels et l'analyse des marchés, au XXe siècle, une bonne partie des économistes seront walrasiens, c'est-à-dire considéreront que ce qu'ils font relève d'une branche des mathématiques, une théorie pure et abstraite qui échappe à toute vérification expérimentale. Bon, c'est une science pure. Néanmoins, je ne vous dirais pas la vérité si je vous disais que tous les économistes pensent comme ça à l'époque,